France Info.
L'édition spéciale de France Info continue, bien sûr, avec des invités, avec des réactions aussi, avec des reporters ici et là pour vous faire vivre ce premier lundi après, donc ce lundi après le deuxième tour des élections législatives. Bonjour Jean-Michel Apathy. C'est aussi le premier lundi, mais enfin il n'y en aura pas deux.
Non, il n'y en aura pas deux, non.
Gilles Vanstein est là également, et Guy Birenbaum est notre invité ce matin, maintenant, et ministre de l'Intérieur.
Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Victoire du parti d'Emmanuel Macron, second tour des élections législatives, elle était attendue. Le mouvement La République En Marche aura seule la majorité, c'est une bonne chose?
Oui, bien évidemment que c'est une bonne chose. Moi, je me souviens par exemple du temps où dans le deuxième septennat de François Mitterrand, il n'y avait pas de majorité, où le ministre chargé des relations avec le Parlement était obligé d'aller faire le tour des députés pour essayer de compléter la majorité sur quelques lois. C'était quand même quelque chose de difficile et ça ne donnait pas forcément des bons résultats.
Vous n'aurez plus d'excuses. Là, maintenant,
que nous sommes devant le défi. Nous avons la majorité, nous avons tout pour transformer la société. On ne pourra pas dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Non, nous sommes en responsabilité et nous sommes aujourd'hui comptables devant les Français.
L'abstention est importante, 57% d'abstention constatée hier soir, ce qui a incité Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, chacun à leur façon, à faire un constat identique. Cette Assemblée nationale est-elle vraiment légitime? On les écoute.
L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases.
Cette majorité boursouflée qui est constituée à l'Assemblée nationale n'a pas la légitimité pour perpétrer le coup d'État social qui était en prévision.
Le problème de la légitimité de l'Assemblée nationale est-il posé, Gérard Collomb?
Ben, si vous voulez, il ferait bien de se poser le problème. Parce que Marine Le Pen, par exemple, on lui donnait pour le premier tour de la présidentielle, quelquefois 30, 35, voire plus. Et puis on voit combien elle fait pour les législatives. Ça veut dire une partie de son électorat s'est évaporée. Et il en va de la même manière pour M. Mélenchon. Moi, je faisais des débats pour le premier tour. Il contestait le résultat de l'élection parce qu'il disait on est à touche-touche et c'est moi finalement qui vais être au deuxième tour. On voit bien que depuis, ça s'est un peu érodé.
Ce qu'ils veulent dire, c'est que les projets que vous portez, parfois en rupture, parfois durs, n'ont été validés finalement que par très peu des Français inscrits sur les listes électorales, qu'il n'y a pas de véritable majorité dans le pays.
Oui, je le comprends d'ailleurs. Si vous voulez, ça fait 10 ans qu'on promet aux Français, tout et n'importe quoi, et qu'on leur dit demain sera meilleur. Aujourd'hui, ils veulent juger sur les preuve. Et donc nous savons que c'est pas simplement sur les discours, sur ce qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, c'est sur la réalisation et le changement de la vie quotidienne des Français. Soit nous réussissons en l'espace de 2 ans à faire que pour les Français la vie s'améliore, soit nous serons renvoyés dans l'histoire comme nos prédécesseurs. Mais je pense que nous allons réussir.
2 ans, c'est le premier deadline, si je puis dire, que vous êtes fixé. Vous faites le premier grand bilan à 2 ans.
Ah oui, je pense, si vous voulez, qu'il faut aller très vite. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron a parlé d'ordonnance, parce qu'il sait que si on laisse se réaliser le temps normal d'une loi, il faut à peu près 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, les Français ne voient rien venir. Et eux, ils veulent voir venir le plus rapidement possible.
On va rester sur le résultat d'hier soir. Évidemment, la victoire de La République En Marche est amplifiée par le mode de scrutin, le scrutin majoritaire. Est-ce que pendant cette législature, vous allez modifier le mode de scrutin et introduire, comme Emmanuel Macron l'a évoqué, une dose de proportionnel?
Oui, Emmanuel Macron veut à la fois diminuer le nombre de représentants à l'Assemblée nationale et en même temps mettre une dose de proportionnel.
C'est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire vous, Gérard Collomb, qui en serait chargé?
Oui, bien sûr.
Et donc, y a déjà quelque chose qui, dans votre tête, est fixé? Quelle dose de proportionnel? Comment modifier les choses?
Le nombre de députés? On est en train de faire travailler les équipes parce que cela demande toute une série de révisions. Par exemple, dans les petits départements, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait plus de députés? C'est impossible. Donc, il s'agit de repenser l'ensemble du système pour pouvoir aboutir à ce résultat.
Le nombre de députés pourrait diminuer de manière importante?
Oui, il pourrait diminuer de manière importante. Ce n'est pas encore fixé.
Plus d'une centaine.
Si vous voulez, l'idée, c'est quand même d'aller plutôt vers un système de type chambre américaine, où on est moins nombreux, mais où on a plus de moyens pour travailler, pour contrôler. Et donc, il y a un vrai rapport qui se forge entre l'exécutif et puis le législatif.
300, 400 députés en tout, vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ?
Non, aujourd'hui, non. Cela n'a pas été défini.
Ce projet de loi, pourrait-elle être ratifiée par référendum ?
Je n'en suis pas sûr, si vous voulez, dans un
vous ne l'excluez pas.
Dans un premier temps, on va chercher d'avoir une majorité dans cette Assemblée, d'en avoir une au Sénat. Puis, si évidemment, on ne pouvait pas progresser, peut-être, y aurait-il référendum. L'essentiel, c'est qu'effectivement, on y parvienne.
En tout cas, beaucoup avant vous ont promis l'introduction de la proportionnelle pour désigner les députés. Vous nous dites ce matin, Gérard Collomb, que ça sera fait.
Nous allons le faire. C'est comme sur beaucoup d'autres points. Beaucoup d'autres points avaient été promis par nos prédécesseurs. Nous allons essayer de les réaliser.
Il court une rumeur d'un rallongement du mandat municipal auquel vous réfléchiriez pour regrouper des élections intermédiaires. Est-ce que vous avez une réflexion dans ce sens ?
Non, ce serait bien évidemment que les élections intermédiaires soient effectivement regroupées, qu'on puisse avoir les municipales, les régionales ensemble, mais il n'y a pas de réflexion pour le moment.
C'est juste un point de vue personnel pour l'instant, ça n'est pas un
c'est
projet
un
politique.
C'est un point de vue personnel, c'est le point de vue de beaucoup de politologues qui disent « mais tout cela fait beaucoup d'élections en même temps, pourquoi n'essaierait-on pas de les regrouper ?»
Est-ce que c'est pour lutter contre l'abstention, tout simplement en fait, qu'il faut
bien
regrouper,
sûr,
c'est juste ça.
Bien sûr, quand vous avez évidemment des enjeux qui sont capitaux, que vous avez à la fois l'enjeu de votre ville et l'enjeu de votre région, c'est vrai que ça vous donne davantage envie d'aller. Côté.
France Info. Gérard Collomb est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein.
Alors, question de légitimité pour le pouvoir, on en a parlé. Quelqu'un hier, c'est Jean-Christophe Cambadélis, a abordé un autre aspect, celui de la verticalité du pouvoir. On écoute celui qui est votre premier, pour quelques jours encore, votre premier secrétaire.
Si chacun devine que cette imposante majorité ne correspond pas à la réalité sociale et politique de notre pays. Le pouvoir absolu et concentré, exercé en toute verticalité, se heurtera à cette contradiction.
Pouvoir absolu, concentré et vertical.
Je crois que Jean-Christophe Cambadélis, mais ça ne m'étonne pas, n'a pas compris quelle était la démarche que nous voulions créer. Vous voyez, ce que nous voudrions réaliser avec La République en marche, c'est pas simplement faire un parti vertical, comme l'était le Parti socialiste. Nous voulons essayer de pouvoir faire converger tous les créateurs dans ce parti, tous les innovateurs, à la fois les start-upers, les entrepreneurs, les culturels, etc., de manière à ce que ça soit un mouvement qui bouillonne et qui alimente l'exécutif.
Vous avez très bien compris ce qu'il veut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a tous les pouvoirs. On a vu, il se décrète lui-même jupitérien. Tout procède de lui. C'est un monarque républicain fidèle à la Ve République. Est-ce que c'est sain ?
On a vu que les meilleures époques, peut-être dans notre vie politique, étaient celles où finalement il y avait un pouvoir fort, et celles où il y avait un pouvoir faible, ce n'était pas celles qui ont connu le plus grand développement de la France et le plus grand bonheur des Français. Finalement, lorsque De Gaulle a installé un pouvoir fort, il a permis effectivement à une République d'avancer pendant quelque temps. Là, il y a une véritable refondation de la vie politique qui est en train de s'exercer, et on en avait bien besoin, parce que finalement, sous les formes diverses, on était revenu à des formes de 4e République. Avec
Macron, De Gaulle, même combat.
Comment ?
Macron, De Gaulle, même combat,
même
méthode.
Il l'a dit lui-même, de manière totalement différente. Vous avez à un moment donné des refondations de la vie politique. Nous sommes dans celle-là. Non pas dans simplement l'alternance d'une mandature sur l'autre, mais une rupture profonde dans l'histoire politique.
Comme quoi les temps changent, puisqu'au début de votre engagement, votre combat, c'était le combat contre la présidence du général De Gaulle.
Mais comme quoi, on est bien obligé de regarder les grands faits de l'histoire. Et je ne sais pas si j'étais pour les grandes figures de l'histoire de France, mais je suis bien obligé de constater quelles étaient les grandes figures.
Quelquefois, certains disent ce qui menace aussi Emmanuel Macron, parce que décidément, derrière la victoire, il y a peut-être beaucoup de menaces.
Oh, il y a toujours beaucoup de menaces.
C'est le culte de la personnalité. Et nous avons noté, Gérard Collomb, votre intervention, c'était le 7 juin dernier à Villeurbanne, qui a suscité quelques commentaires. On vous écoute.
39 ans ! Est-ce que ce n'est pas un peu jeune pour affronter le monde ? Eh bien, mes amis, vous avez pu le constater, non seulement il a affronté le monde, mais il a étonné le monde, il a révolutionné le monde.
Est-ce que vous n'en faites pas trop ?
Ben là, on est en meeting, donc faut chauffer à ça.
Oui, d'accord.
Mais d'une certaine manière, ce que je dis est totalement vrai. Parce que c'est vrai que dans la séquence diplomatique, beaucoup l'attendaient au tournant. Et que vous aviez un certain nombre de dirigeants qui se disaient « Le petit Macron, il arrive sur la scène politique, on va n'en faire qu'une bouchée. »
Non, mais c'est pas ça. Vous dites « Monsieur le ministre, il a révolutionné le monde. Il a été élu le 7 mai. Le 7 juin, il a révolutionné le monde. » Je suis très admiratif et très respectueux d'Emmanuel Macron. Mais franchement, c'est pas...
Je vais vous expliquer pourquoi.
Volontiers.
L'Europe était en train de se défaire. Et on voit bien qu'il est en train de refaire un couple franco-allemand fort qui permet de relancer un certain nombre d'initiatives
européennes. Sur la COP21, ça a moins bien
marché.
Sur
le Brexit, il est en train de reprendre les choses en main. Moi, j'ai assisté à la rencontre avec Theresa May et je peux vous dire que les choses changent dans la façon dont les Anglais aujourd'hui conçoivent le Brexit. Avec Poutine
Emmanuel
et
Macron
avec Trump,
qui fait changer,
je crois qu'il a affirmé des options extrêmement fortes qui, vous allez le voir dans quelques temps, évidemment, c'est pas à l'instant T, vont faire changer la face d'un certain nombre d'événements du côté du Levant, par exemple.
Là, par exemple, on va commencer à discuter Brexit de l'autre côté de la Manche. Vous pensez vraiment que la présidence d'Emmanuel Macron fait qu'on en discute différemment aujourd'hui de ce Brexit ?
Oui, je pense. Il y avait d'un côté l'affirmation d'un pouvoir fort qui était celui de la Grande-Bretagne, sans finalement qu'on voit une Europe qui soit unie par rapport à ce Brexit. Et aujourd'hui, je pense que cette Europe est plus forte. Moi, j'ai rencontré par exemple Michel Barnier, qui est le négociateur pour l'Union européenne. Et pour lui, le fait qu'il y ait quelqu'un comme Emmanuel Macron qui apparaisse et qui soit un homme fort, lui permet de mieux négocier les accords.
Vous venez de parler d'initiatives du côté du Levant. À quoi faites-vous allusion ? Une initiative de paix au Proche-Orient ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Je voulais dire simplement, si vous voulez, que... on voit bien que la politique française tâtonnait au Levant. Elle sera aujourd'hui beaucoup plus forte, beaucoup plus précise, en essayant de cerner les objectifs qui sont les objectifs français.
Militaires.
Les objectifs français, plus généralement. Parce que, si vous voulez, on voit bien que cette région du monde est une région extrêmement difficile, avec chacun qui sert ses intérêts. Les Russes servent les intérêts russes, les Turcs les intérêts turcs, les Iraniens les intérêts iraniens, et nous, on ne voit pas trop quels intérêts on servait dans ce conflit, où pourtant on est extrêmement engagé. Donc lui se pose cette question et dit, il faudrait peut-être qu'on regarde les intérêts de la France.
Deux résultats lors de ces élections législatives ont retenu notre attention. D'abord, Manuel Valls, dont on ne sait pas exactement s'il est élu ou pas à Évry. On écoute l'ancien Premier ministre hier soir.
Ce soir, je suis élu avec 50,3% des voix et, pour être précis, avec 139 voix d'avance.
Vous avez connaissance au ministère de l'Intérieur d'irrégularités qui auraient entaché cette élection législative à Évry ?
Pour le moment, non. Mais moi, je me félicite que Manuel Valls ait été élu. J'étais de ceux qui prônaient qu'il n'y ait pas de candidat En Marche contre lui. On voit que s'il y avait eu un candidat En Marche, évidemment, il aurait été battu. Et je pense qu'il appartient à cette famille socialiste réformiste avec laquelle on veut travailler dans l'avenir.
Vous pensez qu'il peut encore vous apporter quelque chose ?
je pense qu'il peut représenter demain quelque chose, et donc en particulier, si vous voulez, dans la majorité qui est en train de se former. Je pense qu'il viendra des gens du centre-gauche, des gens socio-réformistes, des gens de la droite républicaine, et que c'est tout cela qu'il faut faire converger.
Et vous recommandez de l'accepter dans le groupe La République En Marche ?
S'il le demande, pourquoi pas ?
On a parlé, j'ai lu un papier en faisant un éventuel président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous paraîtrait une bonne idée ?
Je n'en ai jamais entendu parler que dans ce papier, mais pour le reste, c'est à Emmanuel Macron de voir. Je ne suis pas sûr qu'il ait forcément cette idée-là.
Et la défaite de Najat Vallaud-Belkacem dans votre région, elle vous inspire quoi ?
Ben, c'est une défaite normale à partir du moment où il avait choisi une autre voie. Vous voyez, dans un premier temps, elle est allée choisir le camp d'une primaire incertaine. Ensuite, elle a soutenu Hamon. Elle était très anti-Emmanuel Macron. Et donc, elle s'est fourvoyée dans une voie qui était une voie finalement très à gauche. Alors que pour pouvoir gagner à Villeurbanne, il fallait savoir rassembler. Et à l'évidence, elle n'a pas su rassembler.
France Info. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Jean-Michel Apathy, question.
Vous avez dit d'une phrase, Gérard Collomb, que Emmanuel Macron allait s'occuper, bien sûr, parce que c'est important de voir qui, parmi les députés qui entrent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pouvait en devenir le président. Quel est le profil type du président de l'Assemblée nationale pour représenter la majorité qui a gagné hier ?
Ça vous
arrache un petit sourire en coin. Hein.
Il ne m'a pas fait de confidence.
Si, il a dû vous en faire.
Il a dû vous en faire
et vous ne pouvez rien nous dire.
La façon dont vous avez dit, ne pense pas à Valls. De l'Assemblée nationale.
Non, c'est-à-dire, là, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, votre petit sourire dément un peu vos propos, c'est évidemment une question importante, vous en convenez.
Ah, c'est clair qu'aujourd'hui, pouvoir être le chef de groupe du groupe majoritaire est quelque chose de tout à fait fondamental. On l'a vu par le passé, et donc il faut quelqu'un qui ait du leadership et qui sache mener les troupes.
Un chef de groupe, c'est une chose. Président de l'Assemblée nationale, c'est autre chose.
Les deux.
Comment ? Chef de groupe, c'est une chose. Président de l'Assemblée nationale, c'est autre chose. Donc,
c'est deux qualités totalement différentes. Il y en a une où il faut avoir un peu de doigté, et l'autre, au contraire, où il faut montrer de la fermeté. Donc, je conseillerais deux profils assez différents.
Et évidemment, puisqu'on évoquait la présidence ou la manière dont Emmanuel Macron va présider la République, évidemment, c'est un peu lui qui s'occupe de savoir quelles sont les personnalités qui doivent accéder à ces postes importants.
Dire qu'il ne s'en occupe pas serait mentir.
Et c'est pas votre
genre. Je pense qu'il s'en occupe un peu.
Tout
mais
est dans
il
le
consulte peu. Très largement pour pouvoir décider.
Mais sa voix compte double, triple, voire un peu plus.
Alors, sa voix compte double, c'est pas mal. C'est ça. Gilles Manstein.
Vous êtes ministre de l'Intérieur. La menace terroriste continue à planer sur la France, vous l'avez souvent dit. Comment sécuriser, par exemple, un événement comme le Tour de France ?
Nous avons, comme vous le savez, à la fois donc prorogé l'état d'urgence et nous nous apprêtons à présenter une loi qui nous permette justement de sécuriser des événements comme le Tour de France.
En quoi cette loi va vous aider ?
En quoi ? Tout simplement, si vous voulez, parce que nous allons pouvoir continuer à faire un certain nombre de perquisitions, un certain nombre d'assignations à résidence qui nous permettront de pouvoir sécuriser de tels événements.
Le Tour de France, c'est 21 ou 22 étapes avec des longs parcours d'accès libre. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème ?
Mais si vous voulez, les endroits les plus dangereux, ce n'est pas les endroits où vous passez, parce que vous avez vu le Tour de France déjà de nombreuses fois. Vous avez vu qu'on passe extrêmement vite. Non, c'est le village qui peut être dangereux parce qu'autour du village se rassemblent beaucoup de gens. Et donc, c'est là où nous allons pouvoir sécuriser les grands événements.
Le projet de loi que vous allez présenter va reprendre les éléments de l'état d'urgence pour les mettre dans la loi. Et certains disent qu'il y a là quelque chose de problématique au regard des libertés publiques.
Ce que nous essaierons de faire, et je crois que nous y sommes assez bien parvenus, mais je en dirai plus dans quelques jours, c'est de trouver un équilibre entre protection et puis en même temps capacité à faire en sorte que les libertés individuelles soient totalement protégées. Vous voyez, toutes les lois que nous passerons en matière de sécurité pour le ministère de l'Intérieur seront des lois balancées où on essaye de préserver la liberté individuelle, mais en même temps où on prend en compte la réalité du moment, qui est une réalité évidemment d'intenses menaces terroristes.
Les arbitrages budgétaires vont être difficiles à rendre, tout le monde le dit, boucler le budget pour 2017, puis prévoir un budget 2018 risque d'être problématique. Quels sont les besoins du ministère de l'Intérieur en matière budgétaire ?
Ils sont relativement importants parce que, si vous voulez, moi j'ai découvert que le précédent ministère avait passé un accord sur le temps de travail avec les organisations syndicales, très consommateurs de postes. Ce que nous voulons, nous, vous savez que Emmanuel Macron a dit qu'il créerait 10 000 postes dans la police et la gendarmerie, c'est que ça se voit dans les villes et dans les villages, qu'on voit effectivement avec la police de sécurité quotidienne, qu'on voit des gens qui soient dans les quartiers. Et donc, du coup, on change le mode quantitatif, qualitatif, de manière à ce que on n'ait plus une police simplement qui intervienne puis qui repart, mais une police qui maille un territoire. C'est très consommateur d'effectifs. Et donc, le changement va être profond.
Vous allez remettre en cause l'accord trouvé sur le temps de travail ?
Non, on va pas le remettre encore, mais on va essayer de faire en sorte de l'appliquer pour qu'il n'enlève pas sur le terrain un certain nombre de forces.
Gilles Manchin.
Autre sujet dans votre besace de ministre de l'Intérieur, le retour des djihadistes, souvent des jeunes Français qui sont partis en Syrie. Faut-il leur interdire de revenir sur le territoire français alors qu'ils sont Français? Et si oui, comment? Quelle est votre position sur ce sujet?
De toute façon, certains vont revenir ou sont déjà revenus. Et donc, ce problème se pose. Non, moi, je pense que il faut effectivement faire œuvre de pédagogie. Et moi, j'ai demandé à un certain nombre de grands intellectuels spécialistes de la question de pouvoir former un groupe de travail sur ces problématiques dédjihadisation, de manière à ce que l'on puisse ramener ces gens-là dans une vie normale. C'est une problématique extrêmement difficile, mais c'est une problématique à laquelle d'autres pays ont eu à faire face et qu'ils ont résolu à mener à bien.
J'ai l'impression qu'il y a eu une inflexion dans le discours gouvernemental. Le précédent gouvernement était plus dur vis-à-vis de ces gens-là.
On évoquait la déradicalisation des expériences qui ont existé dans ce sens.
Oui, on va déradicaliser, mais si vous voulez, il faut donner un autre idéal. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que les batailles se gagnaient évidemment sur le terrain, mais qu'elles se gagnaient intellectuellement à un moment donné. Et donc, il ne faut pas gagner simplement la bataille sur le terrain, il faut bien sûr gagner la bataille du renseignement sur le territoire, mais il faut essayer de faire passer d'autres idées dans la tête de ces jeunes.
Merci Gérard Collomb d'avoir accepté l'invitation de France Info.
Merci beaucoup, 8h58 sur France Info, à tout de suite. Édition spéciale, oui, sur France Info, avec beaucoup d'invités qui vont nous rejoindre ici en plateau jusqu'à 10h. Nous avons autour de la table Laetitia Avia, bonjour.
Bonjour.
Élue donc de la 8e circonscription de Paris, vous faites partie de ces nouveaux députés qui vont découvrir très vite l'Assemblée nationale, qu'il faudra peut-être former aussi. Hugues Granson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes élue de la 13e circonscription de Paris, nouveau député aussi, mais pas tout à fait novice en politique, puisque vous aviez notamment été conseiller aux affaires sociales de Jacques Chirac. C'était exactement entre 2004 et 2007. Et pardon de commencer par là, moi je suis très curieuse de savoir comment on passe de Jacques Chirac à La République en marche. Alors en même temps, 2007, vous avez eu un sas.
Long processus.
Oui.
J'ai eu un sas Hollande aussi. Hein.
Il y a eu un sas. Il y a eu un sas aussi dans le monde de l'entreprise. Mais ce qui m'a déterminé à m'engager auprès d'Emmanuel Macron, c'est sa démarche particulière, atypique, de vouloir rassembler très largement, rassembler au-delà des clivages, derrière un projet positif, optimiste pour le pays. Et je crois que voilà, il fallait qu'on puisse de tous bords franchir ce pas, avoir la même audace que celle qu'il a eue en quittant le gouvernement. Et c'est, en tout cas, je crois, une initiative qui a recueilli le soutien d'un certain nombre de Français.
Laetitia Avia, vous, quand vous voyez, puisque vous allez toute neuve dans cette assemblée, mais toute neuve aussi au milieu du groupe, quand vous voyez que, assis à votre droite, à votre gauche, devant et derrière, vous aurez des gens qui viennent d'horizons qui sont tellement différents du vôtre, mais tellement différents aussi en politique. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vous réveiller en vous disant, waouh, ça va peut-être être curieux ce qui va se passer là pendant les mois à venir?
Ça fait un an que je me réveille en me disant waouh, c'est assez curieux ce qui se passe dans ma vie.
Mais c'est très rassurant. Voilà.
Non, mais c'est vrai, c'est curieux parce que c'est nouveau, parce que nous avons fait les choses autrement avec En Marche, parce que justement oui, nous avons rassemblé un maximum et que nous travaillons depuis un an avec des personnes qui viennent de la gauche, de la droite, et que finalement on voit qu'on arrive à construire ensemble.
Sauf qu'il vous a peut-être manqué un bout d'adhésion, et c'est ce que dit l'abstention d'hier.
Alors, l'abstention dit beaucoup de choses, je pense. Hein. On peut pas l'expliquer par un seul élément. Moi, je pense qu'on a eu une année qui a été une année particulièrement chargée, qui a énormément sollicité nos concitoyens, des primaires jusqu'aux élections législatives. Hein. Je pense aussi qu'il y a eu un vrai débat démocratique pour le premier tour des législatives. Et je comprends vraiment le vote d'adhésion d'un certain nombre de personnes pour le premier tour qui ont eu aussi une difficulté à se déplacer pour le second tour, étant donné l'échec d'un certain nombre de leurs candidats. Puis je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération lorsqu'on parle de l'abstention.
Mais Hugues-Anson, rapidement sur ce sujet, et pour clore avec ça, vous avez un président qui est un jeune président, il va y avoir une Assemblée nationale qui va être rajeunie avec de nouveaux députés qui sont aussi des néophytes, sauf que ce sont les jeunes qui n'ont pas voté.
Oui, mais je vois ce que vient de dire Laetitia, il y a à la fois une forme de lassitude par rapport au processus politique très long, une forme de résignation aussi, de ceux qui ont peut-être moins d'enthousiasme que nous auprès d'Emmanuel Macron. Et puis il y a, à l'évidence, dans l'analyse de cette abstention, un autre fait à mettre en exergue, c'est la victoire et la majorité stable qui est dégagée par cette élection législative. Et en réalité, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui organisée avec des partis politiques traditionnels a été balayée, je le crois. Aujourd'hui, on nous disait que ce qui n'existait pas il y a un an ne pouvait pas être couronné de succès. Emmanuel Macron est président de la République et il a aujourd'hui au Parlement une majorité stable et solide, et c'est là, en tout cas, pour nous, le principal enseignement.
Gilles Borchain, très vite,
pour préciser la question de Fabienne, près de 75% d'abstention chez les 18-25 ans, ce qui veut dire que tout moderne que vous êtes, quelle que soit la démarche que vous venez dont vous venez de parler, eh bien, vous n'arrivez pas à parler à 75% des jeunes.
On est tout à fait d'accord, et l'abstention est un phénomène sur lequel il faudra évidemment travailler en modernisant la vie politique pour faire en sorte que la vie politique intéresse plus les Français, pour que la représentation nationale soit toujours davantage représentative, pour faire en sorte aussi que les mandats soient renouvelés. C'est tout l'enjeu pour nous des dispositifs qui seront votés pour baisser le nombre de parlementaires, pour moderniser la vie politique.
Question d'Yael Gauze.
Question à tous les deux. Est-ce que vous serez, quel type de députés allez-vous être? Est-ce que vous serez des Béni Oui-Oui, des Godillot? Laetitia Via, vous avez dit récemment à ce micro même, c'est avec Fabienne Sintès d'ailleurs, nous allons challenger le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nous allons réfléchir, que nous allons construire un maximum, aider à la construction des propositions de loi, proposer un maximum d'amendements, que nous avons chacun une expertise. Nous venons de la société civile avec des domaines de compétences, vraiment, et on a été investis en marche pour cela.
Mais il y a une obligation d'aller vite quand même cet été, on l'a compris, beaucoup de textes vont passer très vite, il faut parler terrorisme, il faut parler des ordonnances sur la loi travail.
Vous savez, le programme d'Emmanuel Macron, on le connaît depuis plusieurs mois, c'est le seul programme qui n'a pas varié.
J'étais sûr que Jean-Michel avait dit ça.
Varié. Vous avez la chance parce que moi je suis pas sûr de le connaître, voyez.
C'est vrai, bon ben on vous le transmettra.
Le code du travail, par exemple, à part des généralités, on sait pas de quoi on parle.
En tout cas, il y a 6 chantiers.
Et si vous devez déposer des amendements là-dessus, vous aurez peut-être pas tous les deux, je me permets.
Prioritaire.
Vous aurez peut-être pas tous les deux la même sensibilité d'ailleurs.
Non, bien sûr, mais je crois justement que la spécificité d'En Marche, c'est de croire en l'intelligence collective, c'est de considérer qu'on est plus riche en confrontant des points de vue. On sera dans cette culture-là du dialogue.
Quasi impératif à l'Assemblée en anglais.
On a tous animé des plateaux hier. Vous dites déjà tous la même chose.
Parce qu'on croit en la même chose. Alors peut-être que c'est une nouveauté dans la vie politique que quand les familles politiques traditionnelles se disputent entre elles parce que les hommes politiques ne croient plus en rien mais se battent derrière des étendards et ne croient pas la même chose sur l'essentiel, c'est un problème. Nous, on se rassemble. On se rassemble derrière des éléments très forts que sont en effet le fait de libérer les énergies, de pouvoir...
Vous allez vous challenger mutuellement, vous allez faire l'opposition à la majorité à vous tout seul.
On le fait déjà et on échange déjà énormément.
Mais justement, il y a une autre question que j'ai déjà posée moi aussi, mais j'ai pas eu mon content, je vais vous la reposer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc en commission et entre vous allez discuter, vous allez voir un peu qui est d'accord avec qui, mais au moment du vote à l'Assemblée nationale, est-ce que ça va être un seul homme ou est-ce qu'au moment de voter, si vous n'êtes pas d'accord, vous direz eh ben, très bien, moi aussi, je vote contre.
Je pense que l'idée, c'est vraiment de construire un maximum durant les débats parlementaires. Et
voilà,
c'est ça.
Il faut se dire. Soir, mais c'est voilà.
Mais à la fin,
il faut montrer tout le monde le doigt sur la couture du pantalon.
C'est-à-dire que vous partez du principe sur lequel nous n'allons pas réussir à construire positivement.
Si, si, pas voilà. du tout. Je me demandais juste si vous alliez voter comme un seul homme ou pas chaque fois, quitte à discuter en amont, mais derrière des portes closes, et qu'ensuite, devant l'Assemblée nationale et donc devant tout le monde, au moment de voter, vous disiez, nous, La République En Marche, on est 350 et
quoi
on est tous
d'accord. Quand dit du grand son, Jean-Michel a raison. On ne sait rien de la réforme du travail, puisqu'elle va être négociée, et ni vous ni nous ne savons ce qui va en sortir. Donc à la fin, est-ce que vous êtes certain de voter pour ou est-ce que vous laisserez parler votre conscience ?
C'est ce que je disais justement la semaine dernière, c'est qu'il faut envisager, bien sûr, le fait de pouvoir voter contre une loi. Et il faut l'envisager. Voilà. Il faut l'envisager, c'est important.
Mais tout à fait. Moi j'entends les constructifs qui nous disent depuis quelques semaines, on votera ce qui
est... Les constructifs, donc les LR qui seront constructifs avec vous.
On votera ce qui est positif pour le pays et on votera contre ce qui est négatif pour le pays. Mais mon Dieu, heureusement, et j'apprends donc par cette confession que certains parlementaires déjà en place votaient des choses auxquelles ils ne croyaient pas. C'est quand même une conception très archaïque de la politique.
Je ne veux pas croire que vous ne le saviez pas. On est en édition spéciale sur France Info avec Laetitia Via, élue dans la 8e circonscription de Paris pour La République En Marche, avec Hugues Granson, élu dans la 13e circonscription pour La République En Marche. Tiens, je voudrais tous les deux vous emmener là où vous allez aller dans quelques heures, je pense, ou dans très peu de temps, devant l'Assemblée nationale, retrouver Julie-Marie Lecomte. Julie, donc dans quelques heures, dans quelques temps, peut-être que vous en avez déjà vu passer d'ailleurs, tiens, des députés curieux devant vous.
Non, je n'en ai pas encore vu passer, mais l'Assemblée nationale est ouverte depuis 8h30 parce qu'ici, on les attend de pied ferme, ces nouveaux députés, parce qu'on ne les connaît pas non plus. Il faut donc les enregistrer. Il y a un certain nombre de formalités administratives à remplir. Ces journées d'accueil, elles vont durer toute la semaine. Alors, ceci dit, on ne devrait pas assister dès ce matin à une déferlante. D'ailleurs, La République En Marche a plutôt conseillé aux nouveaux élus de rester dans leur circonscription aujourd'hui, de prendre le temps d'aller remercier les militants et puis de venir plutôt à partir de mercredi. Parce que, vous le savez, il y a un grand séminaire ce week-end pour les nouveaux députés. Et donc, venir mercredi, jeudi ou vendredi, eh bien, pour ceux qui viennent de province, cela évite de faire des allers-retours.
Mais bah, écoutez, on suivra ça. On va te poser la question à nos invités directement. Ça va ressembler à quoi, ce séminaire ? On va vous apprendre, et je dis ça sans plaisanter, voilà comment ça marche, l'Assemblée nationale. Voilà le cartable, voilà comment tout ça va fonctionner.
Voilà, au début d'une aventure, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, il est important de pouvoir se réunir, de pouvoir partager, de pouvoir se connaître, de pouvoir identifier des objectifs.
Vous pouvez mettre vos noms, comme ça, sur votre costume.
J'en serai très heureux. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, non, mais parce qu'on peut voir ça avec une forme d'ironie,
non, en réalité,
c'est pas le genre de la maison.
La nouvelle respiration, voilà, vous fera voir de nouvelles têtes, des gens qui ont des parcours professionnels, des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer.
Et d'autant qu'on ira vous chercher, nous, les journalistes, donc effectivement, un partout.
Est-ce qu'il faut donner un chiffre, d'ailleurs, c'est l'Assemblée qui sera la plus féminisée dans l'histoire. 233 femmes contre 155 dans l'Assemblée sortante. Et il faut dire que La République En Marche, 48% de femmes, et Les Républicains, 24%.
Et Laetitia, première promesse de tenue.
Laetitia Via, vous aviez déjà mis les pieds à l'Assemblée nationale ? Est-ce que par curiosité, vous avez déjà assisté à des débats, à des séances du mercredi, des choses comme ça ?
Oui, parce que moi, je suis avocate de profession, donc forcément, c'est un lieu.
Vous allez souvent à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?
Ce que je veux dire, c'est que la loi étant une de mes passions, c'est un lieu où je vais, régulièrement, donc je ne vais pas découvrir l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'il y a une chose qui vous préoccupe plus qu'une autre, qui vous fait peur plus qu'une autre, pour laquelle vous avez plus de questions que vous aimeriez poser à un député plus aguerri avant de commencer ?
Pas réellement, hein, vous savez, c'est surtout une découverte administrative aujourd'hui, voilà. Mm-hmm. Il va falloir voir comment les choses fonctionnent, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça va être d'agir et de savoir comment agir le plus rapidement possible.
Vos assistants, par exemple, vous les recrutez comment, Hugues Granson ?
Ben, on va les recruter sur la base de CV, de candidatures qui vont nous être adressées ou qui sont adressées directement, j'anticipe votre question, par La République En Marche, puisqu'il y a déjà beaucoup de candidatures, de gens qui ont envie de participer à cette aventure.
Vous êtes visible, Jean-Michel.
Voilà, vous voyez, vous avez bien anticipé la question.
Vous m'avez entendu. Une bombe de CV, est-ce que c'est vrai ?
Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de CV qui sont arrivés à La République En Marche et que certains nous seront adressés, d'autres choix seront faits de manière peut-être plus personnelle.
C'est aussi une manière de vous contrôler.
Non, je crois pas. Je pense que c'est aussi une manière d'avoir
de nous accompagner.
Voilà.
Voilà, c'est une manière de nous accompagner peut-être. Mais à côté de cela, on reçoit. Vous savez, c'est comme les éventuels collaborateurs parlementaires savent comment faire. Hein. Ils nous envoient des emails. Hein. Moi, j'ai déjà reçu une bonne vingtaine de CV. Et puis je vais les lire. Je vais lire les lettres de motivation. Et puis on va passer des entretiens. Il y a rien de plus simple que cela.
Est-ce que vous savez déjà l'un et l'autre si vous avez envie de participer à des commissions et lesquelles et comment ça va se jouer ça?
Moi, je suis intéressée par la commission des lois, évidemment. On va voir comment les choses vont se passer.
Et vous, par la commission des affaires sociales, je parie?
Moi, soit par la commission des affaires sociales, soit par la commission des affaires étrangères, de par ce parcours que vous avez rappelé tout à l'heure auprès de Jacques Chirac. C'est là où je pense pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Si vous me permettez juste de revenir sur le point de l'appréhension qu'on pourrait avoir à quelques heures de rentrer dans
l'hémicycle. Mais ce qui est normal, hein, d'ailleurs.
Enfin, il y a évidemment une appréhension, mais il y a surtout le poids des responsabilités, parce qu'on a tous senti pendant cette campagne que les attentes étaient très fortes et qu'aujourd'hui, on a une obligation de résultat, pour agir vite, pour avoir justement des politiques concrètes, justes et efficaces pour les Français, mais aussi une obligation dans la façon de faire de la politique différemment. Et là-dessus, c'est une exigence évidemment particulière et on sent le poids des responsabilités.
Vous serez des députés à 100%? Vous ne ferez que ça, le cabinet que vous avez, par exemple,
le cabinet va devoir se réorganiser. Voilà, moi, en même temps, ça fait, je pense, 2 mois que je ne suis plus très présente auprès de mes clients. Donc, je transfère mes dossiers.
Vous ne ferez que ça. Et vous, Granson?
Et moi, je dirige actuellement une fondation d'entreprise que je m'apprête à quitter à l'occasion du prochain conseil d'administration.
Est-ce qu'on a noté que le projet de loi de François Bayrou recule un peu sur la promesse et l'engagement d'Emmanuel Macron? Les députés doivent se consacrer exclusivement à leur mandat et le projet de loi de François Bayrou ne dit pas exactement cela. Vous l'amenderez peut-être pour qu'il soit fidèle à la parole d'Emmanuel Macron?
Alors, la parole d'Emmanuel Macron, c'était d'empêcher les conflits d'intérêts avec le Conseil.
Et 100% à sa tâche.
C'était pas dans le programme.
On dit beaucoup de choses.
C'était pas dans le programme. Ah, c'était un avis, une position affirmée. Après, moi, je comprends aussi la position sur laquelle, si on veut que des députés soient issus de la société civile, qu'ils ne soient pas hors sol, il faut peut-être aussi leur permettre de continuer de travailler. Mais alors,
c'est curieux, voilà. Hein, ça. Hein.
Et non, mais par exemple, comprends. Prenons un exemple concret. Ouais. Sylvain Maillard, un des premiers marcheurs élus dimanche dernier dès le premier tour à Paris, lui, il dit moi, je garderai toujours, je sanctuariserai une journée par semaine pour mon entreprise d'import-export de composants électroniques. Est-ce que ça, vous qui quittez votre fondation, Hugues Granson, est-ce que ça vous convient?
Moi, ça ne me choque pas à partir du moment où les choses sont faites, sont dites, sont faites dans la transparence, dans l'éthique, et qu'aujourd'hui, voilà, ce que vient de dire Laetitia est très juste, on veut qu'il y ait de la société civile au sein de l'Assemblée nationale. On veut faire venir à la politique des gens qui en étaient exclus ou qui ne s'y intéressaient pas. Il faut donc trouver les dispositifs qui permettent aux gens de venir exercer des mandats parlementaires sans forcément tout abandonner, parce que c'est aujourd'hui, pour ces raisons-là, qu'ils ne s'engageaient pas.
Et surtout, ce qui leur permet ensuite de revenir à la vie civile, puisque, et c'est ce qu'on voit concernant les députés...
Le gage pour ne pas devenir politicien professionnel, c'est de garder un pied dans le monde du travail, en fait, c'est ce que vous dites.
C'est de pouvoir y revenir, de ne pas essayer de construire une carrière politique. Nous luttons également contre ça.
C'est curieux comment la politique est toujours singulière dans la société. Ça ne peut pas être un truc simple. Quand on fait un métier, on le fait à 100%, mais quand on est député, on le fait à 90% ou 80% ou 60%.
Mais il arrive à des journalistes aussi d'avoir une activité télévisée, une activité...
Ah bah c'est toujours du journalisme.
C'est le même métier.
Enfin, moi, je n'ai pas d'entreprise.
Mais c'est curieux.
La politique est toujours dérogatoire à droit commun. Et
non, parce que moi, c'est pas une profession. Précisément, ce n'est pas une profession. Mm-hmm. On exerce un mandat. Et ce mandat, on l'exerce. Et ce qui va changer précisément, parce qu'on va faire venir des gens de la société civile, c'est qu'on va non plus être dans une approche professionnelle, mais on va être dans une approche nouvelle, avec un esprit d'engagement et un esprit de mission. Et on se place résolument dans cet esprit de mission.
Info. Édition spéciale sur France Info qui se poursuit jusqu'à 10h au moins avec Laetitia Avia, nouvelle élue de la 8e circonscription de Paris, avec Hugues Granson, nouvelle élue de la 13e circonscription de Paris, et tous les deux pour La République En Marche. On va aller rejoindre à nouveau Julie-Marie Lecomte, un nouvel aller-retour devant l'Assemblée nationale. Julie, puisque c'est vous qui allez accueillir, si je puis dire, enfin pas vous seulement, accueillir les nouveaux députés qui viendront doucement prendre leur quartier, pas encore, mais en tout cas leurs petites affaires pour commencer leur nouvelle vie. Et vous avez quelques informations sur ce fameux séminaire, cette fameuse journée qu'ils passeront ensemble mercredi.
Oui, parce qu'on dit beaucoup que ce séminaire va être un séminaire de formation. Alors au siège d'En Marche, on explique que ce n'est pas exactement cela l'idée, la formation. Cela va surtout continuer de passer par cette plateforme numérique qui avait été lancée pendant la campagne pour accompagner les candidats. Non, le séminaire de ce week-end, en fait, c'est plutôt un séminaire de cadrage. On attend Édouard Philippe, le Premier ministre, qui va venir parler à ses nouveaux députés. Il va endosser là, véritablement les habits, le costume de chef de la majorité. Et puis, eh bien, ces députés, il va leur dire, ça on peut à peu près le parier, il va leur rappeler qu'ils ont signé le fameux contrat avec la nation, qui est en fait un contrat avec Emmanuel Macron. Et certains me disent même que le Premier ministre pourrait rappeler donc à ce groupe que, eh bien, sans Emmanuel Macron, aucun d'entre eux, ou en tout cas peu d'entre eux, aurait pu un jour s'imaginer s'asseoir dans l'hémicycle. Donc vous voyez, réunion de cadrage assez serrée quand même.
Merci beaucoup Julie pour ces précisions.
Ah, je voudrais dire
juste un tout petit détail, Jean-Michel, parce que c'est de ma faute. J'ai dit que c'était mercredi, mais pas du tout, c'est ce week-end. Je ne sais pas pourquoi je voulais absolument que vous commenciez tout de suite. Dites donc...
Ça va pas rigoler, hein.
Serrage de vis.
C'est une vision des choses. Je n'ai pas l'impression, moi, d'avoir été convoquée à une réunion de cadrage.
Bon,
voilà. Je pense qu'on va discuter ensemble du calendrier qui sera chargé. Je pense que, oui, le Premier ministre va motiver les troupes parce que beaucoup de travail pour cet été.
Vous allez être motivé.
Vous avez un chef, un grand chef, c'est Emmanuel Macron, mais vous avez besoin d'un plus petit chef, ça sera le président de groupe. Quel profil, un homme venu de la gauche, de la droite, enfin, est-ce que vous avez des idées là-dessus?
Peu importe, il faut dépasser ce clivage, vraiment, et je vous le dis avec la plus grande sincérité.
Pas peu importe que le président du groupe majoritaire soit un député socialiste sortant, par exemple, ou quelqu'un venu de la droite, ça ne donne pas le même symbole politique, quoi que vous en disiez.
Et Gérard Collomb l'a dit, le président met son grain de sel et va choisir.
Oui, moi je crois, si tu me le permets, Laetitia, qu'il est important...
Ah, amendement, à ma droite.
Qu'il est dialogue et participation, culture de l'intelligence collective. Il est important...
Alors on le note, intelligence collective, ça il va falloir...
Culture de l'intelligence collective.
Voilà. Il est important sur la question, plus que la personnalité, de changer de grille d'analyse. Aujourd'hui, on ne va pas essayer de savoir qui sont ceux qui viennent de la gauche, qui sont ceux qui viennent de la droite, et quelle est la proportion de chacun des anciens camps et des anciennes familles politiques dans le nouveau dispositif. Aujourd'hui, on essaye de se projeter vers l'avenir, d'avoir une feuille blanche et d'écrire une nouvelle façon de faire de la politique. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que d'autres n'ont pas le même enthousiasme que nous. Mais aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. Ensuite, la question de la personnalité sur les qualités intrinsèques du président du groupe, c'est évidemment quelqu'un qui rassemblera, c'est quelqu'un qui a une expérience, et ce sera forcément un leader pour les parlementaires de La République En Marche, mais c'est à nous de le choisir et de voter au sein d'une élection.
Vous parliez de grille d'analyse à l'instant, vous parliez de vieux parti. Il y a aussi un jeune parti finalement qui est celui de la France Insoumise et qui a un nouveau député qui sera de poids dans cet hémicycle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on joigne rapidement Mathieu Mandoloni qui est à Marseille, avec un Jean-Luc Mélenchon, Mathieu, qui a été plutôt confortablement élu et dont on a bien entendu dans son premier discours quel serait son rôle finalement dans cet hémicycle. L'un de ses premiers mots a été celui de légitimité.
Oui, exactement, Fabienne. La légitimité, et puis porter cette voix de l'opposition, il se considère, Jean-Luc Mélenchon, avec les 16 autres députés insoumis qui ont été élus hier soir, comme la seule voix de l'opposition à gauche. Hein. Il insiste sur la déroute du Parti Socialiste, sur le fait que lui et son mouvement, puisqu'il se qualifie ainsi, la France Insoumise, d'un mouvement et non d'un parti politique traditionnel, ce sont leurs mots, pour aller à l'Assemblée Nationale, défendre la casse du Code du Travail, comme ils le disent, défendre aussi les acquis sociaux, face à une politique qu'ils jugent complètement illégitime, puisque d'après eux, avec cette forte abstention, eh bien Emmanuel Macron et La République En Marche n'a pas obtenu réellement une majorité. Elle est certes ressortie des urnes, mais avec 58% d'abstention, cela ne donne pas droit, selon eux, aux députés de La République En Marche de tout décider. Donc ils entendent contester ça à l'intérieur de l'hémicycle, mais aussi à l'extérieur, en espérant que cette abstention se transforme, et là aussi ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon, en véritable révolution citoyenne. C'est le pari qu'ils vont faire, aller également dans la rue pour contester la politique menée.
Mathieu Mandoloni, merci. En direct avec nous à Marseille, Hugues Granson, ce procès en légitimité qu'on va vous faire, hein, ça va pas louper. Comment vous y répondez? Est-ce que vous entendez cette critique-là? Vous savez qu'il faudra y répondre.
Que l'abstention, évidemment, a touché tous les partis politiques. Aujourd'hui, il y a une vraie crise de la politique et qu'aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'avoir des résultats concrets pour les Français en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, de sécurité, et c'est là-dessus qu'on sera jugé. Aujourd'hui, voilà, je crois que le procès en illégitimité, alors qu'on est au lendemain d'une élection et qu'on sort d'un processus politique excessivement long, qui a duré quasiment un an, je crois que voilà, les Français attendent de nous qu'on rentre dans l'action et pas qu'on se questionne sur l'enjeu de la légitimité ou de la moindre légitimité.
Yael Gauze, on n'a pas le temps. Voilà, vous venez de l'entendre, je suis désolée. Voilà, vous mangerez votre question, on aura l'occasion de la reposer plus tard, puisque évidemment, on aura aussi l'occasion de se reparler, on l'imagine. On vous souhaite un démarrage donc dans votre vie de député. Merci beaucoup, Laetitia, bien merci, Hugues Granson, d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Édition spéciale, elle continue.
France Info. Édition spéciale législative 2017. Fabienne Sintès.
La suite, oui, de l'édition spéciale sur France Info, invité avec nous jusqu'à 10h, Nadine Morano, bonjour.
Bonjour.
Gilles Bornstein est toujours là, Yael Gauze également, oui. Et Jean-Michel Apathy aussi.
Est-ce que vous résistez au macronisme ambiant, Nadine Morano? Est-ce que vous trouvez que décidément, ce président qui a fait exploser tout le paysage politique a quelque chose de singulier?
Ah ben, il aurait aimé faire exploser notre famille politique.
Ah ben, c'est un peu explosé quand même.
Hein. Non, parce que quand vous regardez les résultats, on a mieux tenu que prévu.
On verra ça le 4 juillet pour le vote de confiance. Là,
oui,
ça
non,
sera l'heure de vérité.
Là, sur les députés élus et le groupe qu'on va avoir à l'Assemblée, vous affichiez tout à l'heure pratiquement avec la droite et le centre, donc avec l'UDI, on atteint les 130 parlementaires. On nous annonçait à l'Assemblée nationale que notre groupe serait constitué de 60, 80. Enfin, on nous annonçait une déconfiture, une dégelée historique. On a mieux résisté que prévu.
C'est une dégelée historique. C'est la première fois sous la 5e que vous avez un score aussi bas.
Nous avons mieux résisté que prévu. Pour nous, et d'ailleurs vous avez bien vu, tous les observateurs le disent, il y a eu entre les deux tours, on a vu des candidats chez nous qui étaient très distancés, remonter de manière spectaculaire et au final être élus. Donc on a mieux tenu. Ensuite, quand vous regardez, moi j'ai été élue députée en 2002 avec un groupe plus important de députés du parti présidentiel, hein, de l'UMP à l'époque, puisqu'on était aux alentours de 350, rien que notre groupe, avec un taux de participation qui n'a rien à voir avec le désastre aujourd'hui démocratique auquel on a assisté à l'élection législative.
Macron, s'il y avait vraiment... Macron, c'est du flan.
Non, mais... Je ne dis pas ça. Moi, il a été élu. Je respecte le président de la République. Il a une majorité. C'est factuel. C'est un fait. Mais en même temps, vous avez bien vu, je suis venue sur votre plateau, vous savez très bien que cette élection présidentielle s'est déroulée dans des conditions particulières. Nous avons perdu. Ça, c'est une réalité. Nous, c'est une défaite présidentielle. C'est une défaite, par définition, qui s'est enclenchée avec les élections législatives. Mais il n'y a pas ce souffle qu'aurait dû avoir le président de la République après une élection présidentielle gagnée comme il l'a gagnée. Regardez, en 2007, nous avons eu 108 députés élu au premier tour du parti du président. 108.
Là, il y en a eu 4. Les deux tours.
Oh, bah, enfin, vous avez vu le groupe qu'on avait. Ça n'a rien à voir avec le groupe d'En Marche. Je parle d'En Marche tout seul, sans le MoDem. Donc, en fait, il y avait une vraie dynamique. Il y avait une participation des citoyens à l'élection législative. Et aujourd'hui, je constate que M. Macron n'incarne pas cet enthousiasme réel.
Mais il
les chiffres.
Mais il rend enthousiaste beaucoup de vos camarades LR.
Non, pourquoi vous dites
Thierry
beaucoup Solaire, ça
Franck
vous fait
Hester,
rêver, mais c'est pas
vingtaine.
Vrai. Non, mais voilà, non. Vous dites Franck Riester, Thierry Solaire, vous savez, notre parti politique est beaucoup plus important que 4 personnes.
Ceux qui vont voter la confiance à Édouard Philippe,
savez,
le 4... Excusez-moi, j'ai une question précise. Ceux qui vont voter la confiance à Édouard Philippe, c'est le 4 ou le 3
Je crois que c'était le
3, moi. Hein,
le 4.
Ça vient de changer. Le 4 juillet, est-ce qu'ils peuvent continuer à figurer dans le groupe Les Républicains ou est-ce qu'il faut leur demander de se partir?
Moi, je pense qu'à un moment... Vous savez, on va avoir un bureau politique mercredi.
Oui.
Il sera le bienvenu parce que maintenant la parole sera libre et totalement libre. Nous avons fait beaucoup d'efforts parce que nous avions des candidats sur le terrain et il fallait surtout faire en sorte...
Donc ça va défourrer.
Pardon ?
Donc ça va y aller dans tous les sens.
Non, il faut faire l'analyse. Si on ne fait pas l'analyse du pourquoi nous avons perdu cette élection présidentielle, il n'y a pas eu que les affaires. Il y a aussi la question programmatique. Il y a eu la question de mettre tout le monde autour de la table en termes de méthode pour arriver à construire un projet pour la France. On ne gagne pas avec un projet pour la primaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats dans les sondages, François Fillon a commencé à perdre 5 points quand il y a eu le problème sur la sécurité sociale.
Que deviennent ceux qui votent la confiance au gouvernement ?
Eh bien, moi, je pense qu'à un moment, vous savez, on les appelle certains les constructifs. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est des démolisseurs de notre famille politique. C'est pas des constructifs. D'accord. Ils sont partis construire ailleurs, mais ils ont tenté de nous démolir. Donc, ils sont les artisans de la défaite de certains de nos amis parlementaires qui aujourd'hui devraient être à l'Assemblée nationale. Donc, à un moment, il va falloir dire la vérité aux Français. Ce sont des naïfs qui pensent que, et des naïfs et des supplétifs, parce que Monsieur Macron n'a pas besoin d'eux. Alors il va s'en servir, il va bien les essorer, et ensuite après il va les jeter. Donc c'est ça la réalité. Et je crois que...
Donc vous les jetez, préventivement, vous les jetez, il faut pas les garder.
Mais vous savez, moi je fonctionne pas comme ça. J'estime qu'à un moment il faut être clair avec les Français, et que ces personnes doivent faire un choix. On peut pas d'un côté dire j'appartiens à une famille politique, mais en même temps je soutiens le président de la République. Vous savez la méthode parlementaire... Mais
vous rétrécissez en disant ça peut-être.
Pardon?
Est-ce que vous rétrécissez les LR en disant
mais,
ça?
Mais vous savez, il vaut mieux être clair plutôt que d'avoir un parti dont on ne comprend rien. Et aujourd'hui, les Français l'expriment hein, souvent, on dit mais attendez, on ne comprend pas, vous avez quelqu'un de chez vous qui est parti, qui est Premier ministre, deux autres qui font partie du gouvernement,
donc
mais pour faire quoi?
Un parti homogène, c'est ce que vous souhaitez? Avec qui à sa tête? Laurent Wauquiez?
Un parti qui a une ligne politique, qui a une méthode.
Et un chef et, qui
Laurent Wauquiez, le chef?
Qui a un chef, mais nous verrons bien. Vous savez, étape après étape, déjà,
Alors, je vous le demande différemment. Souhaitez-vous que Laurent Wauquiez dirige cette formation?
Mais on va discuter avec lui. Mais
vous avez un souhait.
C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je crois que ce qui va être important, c'est la ligne politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel projet on va défendre. Moi, je pars pas derrière quelqu'un comme ça en disant oh, c'est toi, alors je pars derrière toi. Ça, c'est n'importe quoi.
Mais est-ce que vous avez le sentiment justement?
Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne politique et la méthode.
Mais
vous savez la méthode.
Est-ce qu'il y a une ligne majoritaire là-dessus? Parce que en vous entendant, on a l'impression que les constructifs, constructeurs, je peux
comment les
appeler.
Non, c'est pas ça. Ils sont deux ou trois. Voilà. Arrêtez de les appeler constructifs. Alors,
ceux qui
partent bâtir ailleurs.
Attendez, je vais reformuler. Ceux qui se nomment les constructifs. Ceux qui se nomment, vous savez quand le bâtiment va. Ceux qui se nomment les constructifs. En vous écoutant, on a l'impression qu'ils sont deux ou trois. Vous pensez que c'est tout, en fait? Vous pensez que c'est pas plus que ça?
Dans le groupe parlementaire, demain, donc aujourd'hui, il y a l'inscription des parlementaires qui viennent à l'Assemblée. Demain, il y aura un vote pour la présidence du groupe. Je crois que ceux qui auraient pu être tentés, pour certains, le sont beaucoup moins, parce qu'ils ont compris qu'avec le groupe En Marche, en fait, ils ne seront que des supplétifs. Parce que, vous savez, moi, j'ai été parlementaire, donc il faut pas me la faire. Je le dis très clairement devant les Français. Quand on vous dit nouvelle méthode de travail, il faut travailler avec le président de la République, il faut être dans une opposition intelligente. Mais quand il a fallu voter les textes sur la sécurité à l'Assemblée nationale, quand François Hollande les a présentés, nous les avons votés. Et donc, bien souvent, nous savons dépasser les clivages. Quand j'étais parlementaire, quand nous avons travaillé sur les textes sur la sécurité intérieure, j'étais vice-présidente du groupe d'études sur la sécurité intérieure, nous avons accepté beaucoup d'amendements de l'opposition. C'est comme ça que ça travaille une Assemblée nationale. Enfin, c'est des gens qui sont tous, dans leur grande majorité, engagés pour l'intérêt général de la France en fonction de leurs convictions.
France Info. La suite de l'édition spéciale sur France Info au lendemain du deuxième tour des élections législatives. L'invité, c'est Nadine Morano. Et la question, c'est vous, Jean-Michel Apathy.
Est-ce que vous avez du temps ou est-ce qu'il y a urgence à reconstruire votre parti en congrès programmé pour l'automne? Jean-François Copé dit c'est beaucoup trop tôt, on ne sera pas prêt, c'est n'importe quoi. Il vaut mieux mettre en place une direction collective et prendre le temps de réfléchir un peu. Quelle est votre préférence, Nadine Morano?
On va en parler demain. On va analyser la situation de notre famille politique, la meilleure méthode pour rebondir, pour parler aux Français, pour les convaincre sur la base d'un projet, et de nos convictions, de nos idées. Donc, à chaque jour suffit sa peine.
Votre projet, c'est-à-dire ce qui a été dit, vous n'avez pas besoin de tout changer aussi, je ne comprends pas bien.
Mais vous savez, on a beaucoup perdu à cause d'un manque de méthode. D'abord, bon, c'est vrai que nous n'avions plus de chef, mais alors la méthode, c'est quelque chose.
Hein. Qu'est-ce que vous entendez par méthode?
Moi, quand j'étais là à la constitution, à la création de l'UMP, hein, et nous avions
2002.
une méthode de travail qui nous a fait gagner largement en 2007, qui était de travailler avec les différentes sensibilités. Moi, j'appartenais à la commission projet, où il y avait les gaullistes, les libéraux, les centristes. Nous avions des divergences de vues, mais à travers nos débats, nous arrivions toujours à trouver des points de convergence qui nous ont amenés à trouver, à proposer aux Français un projet qui les a séduits, qui les a enthousiasmés. Et là, nous n'avons plus du tout eu
parce
ça.
Parce que vous aviez un patron, vous n'avez plus.
Voilà.
C'est ça, donc, la différence, c'est pas la méthode.
Vous aviez un patron chef, et une méthode. Et là, en fait, il n'y a plus de méthode. La preuve, c'est que quand François Fillon a gagné, et quand on lui a demandé de nous mettre tous autour de la table, il nous a envoyé balader. Il est parti avec son projet en disant « Moi, j'ai gagné la primaire, circuler, il n'y a plus rien à voir. » Ben non, ça ne marche pas comme ça.
Yael Gauze, à l'époque 2002, qui était à la manœuvre pour créer l'UMP sur les fonds baptismaux, c'était Édouard Philippe, actuel Premier ministre d'Emmanuel Macron, et Alain Juppé.
Arrête de lui donner un rôle
Juppé
aussi important. Et donc, franchement,
l'histoire est étonnante quand même.
Édouard Philippe, Premier ministre, ça nous a scotché un peu. Enfin, franchement, c'est...
Pourquoi ça vous a scotché?
Bon, parce que c'est un peu choisir... vous savez, Chirac disait « Le meilleur d'entre nous, c'est Juppé ». Moi, je pense que les plus faibles d'entre nous sont partis. Ceux qui n'ont pas décidé de choisir, d'être constructifs. Quand je regarde les différentes vidéos et des passages dans les médias qui balançaient tout sur Emmanuel Macron, ça me fait rire.
C'est un des plus faibles, Édouard Philippe ? Un des plus faibles...
Pardon ? Quand vous cédez à la tentation d'aller appartenir à un gouvernement qui propose le contraire de ce que vous pensez, de ce que vous avez défendu, vous construisez d'abord, non pas un projet politique, mais une carrière personnelle et individuelle. Ils ont choisi leur destin par rapport au destin de la France. C'est des gens qui ont des convictions pas très droites, quand même.
Des convictions qui peuvent changer. Vous en avez parlé avec lui ? Vous avez changé depuis qu'il est à Matignon ?
Non, je n'ai pas échangé avec lui. Je n'étais pas une des proches d'Édouard Philippe. Je ne fais pas partie de l'aile juppéiste.
Emmanuel Macron, ce n'est pas le contraire de ce que vous pensez.
Pardon ?
Emmanuel Macron,
on a défendu un projet qui était la baisse des impôts et Bruno Le Maire, comme Édouard Philippe, était totalement opposé à l'augmentation de la CSG. On se retrouve avec Emmanuel Macron, qui est très habile, d'ailleurs, il faut lui rendre ça, qui met Bruno Le Maire au ministère de l'économie, c'est-à-dire il va lui faire faire le sale boulot. Et je trouve que c'est un peu vicieux quelque part. Hein. C'est de dire, t'étais contre l'augmentation de la CSG, mais c'est toi qui vas la mettre en œuvre. Enfin, il faut accepter de faire ça. Moi, jamais j'accepterais de renier mes convictions pour un poste. Mais ça, je l'ai déjà démontré. Après, chacun fait comme il veut dans la vie. Mais je pense que la politique, c'est d'abord, vis-à-vis des électeurs, une véritable clarté et une vraie pensée politique.
Je voudrais qu'on jette un œil, qu'on garde un œil sur ce à quoi va ressembler cette prochaine Assemblée nationale. On sait qu'il y aura un groupe de la France insoumise, et notamment à l'intérieur de ce groupe, un personnage important qui s'est fait élire hier contre un candidat de La République En Marche. Et c'est François Ruffin, donc du côté d'Amiens. Et c'est là qu'on rejoint Célia Kyré, un François Ruffin qui a été plutôt bien élu d'ailleurs face à son opposant.
Oui, effectivement, il a créé la surprise hier soir avec 56% des voix contre 44% pour Nicolas Dumont, le candidat de La République En Marche, qui était ancien socialiste et le maire d'Abbeville. François Ruffin a creusé l'écart puisqu'il a 4000 voix de plus que Nicolas Dumont, alors que dimanche dernier, finalement, il était donné plutôt perdant puisqu'il avait 10% de moins à l'issue du premier tour. Mais finalement, depuis dimanche, il y a eu une campagne assez agressive de François Ruffin. Il est allé toquer aux portes des ouvriers dans des villes comme Flixecourt où il était hier soir. Il est allé sur les parkings de supermarchés et finalement il a réussi à gagner avec un slogan non aux suppressions de postes de fonctionnaires, non à la baisse des petites retraites, et il a réussi finalement à gagner là où le FN était en tête au moment de la présidentielle, puisque Marine Le Pen a battu des records dans des villes comme Flixecourt justement. Et hier soir, ce qui était intéressant dans le discours de François Ruffin, c'est que il se présente vraiment comme une force d'opposition à Emmanuel Macron, en disant maintenant la gauche c'est nous, on n'est ni l'extrême gauche ni la gauche radicale, la gauche tout simplement. Et c'est vrai qu'il a réussi à rassembler à la fois le PC, les Insoumis, Europe Écologie Les Verts et même le PS local dans la dernière ligne droite.
Célia Kyré dans la région d'Amiens, merci beaucoup. Nadine Morano, c'est vrai que là au moins il n'y a pas d'état d'âme, on sait très bien où il se situe, il y a un groupe à la France Insoumise et il va vraiment se faire entendre.
Oui, enfin, nous verrons. Moi, quand j'entendais parler Monsieur Mélenchon de dégagisme, je me suis demandé pourquoi il se dégageait déjà pas tout seul, parce que depuis le temps qu'on le voit partout et à son âge, le premier qui devrait dégager, c'est peut-être lui. Donc voilà, il fait beaucoup de démagogie. Il est vraiment dans le spectacle. Ça marche. Il a du talent. Après, on verra. Ça sera quand même une épine dans la chaussure de Monsieur Macron. Ils feront une opposition. Nous, c'est pas notre démarche.
Moi, j'allais dire, est-ce que c'est pas une épine plus efficace que la vôtre?
Non, mais lui fait partie des extrémistes. Moi, nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Nous, on est dans une démarche qui est totalement républicaine, à défendre la construction de la France, des idées qui ne sont pas dans... franchement,
et
dans,
à soutenir Emmanuel Macron dans sa réforme du Code du travail.
Mais vous savez que quand François Hollande avait proposé, et je l'ai dit d'ailleurs, je ne sais plus si c'était sur votre plateau, mais enfin je l'ai dit médiatiquement, quand la première mouture de la loi travail avait été présentée par Emmanuel, par
François Hollande,
non, Madame El Khomri, nous avions dit que nous la voterions. Donc, mais on a toujours été comme ça.
Vous êtes constructif.
C'est pas non, par rapport à Monsieur Macron. Vous faites une fixette sur Monsieur Macron. C'est une méthode de travail.
C'est que pour le coup, la France insoumise aura peut-être deux adversaires groupés sur ce texte-là, à savoir vous et Emmanuel Macron.
Ah ben, nous verrons bien ce qu'il y aura dans ce texte. Si le texte, personne ne l'a pour l'instant, mais si le texte va dans l'intérêt de l'emploi, dans l'intérêt des entreprises, dans l'intérêt de la compétitivité, il faudra le voter. Mais ça n'a rien à voir avec Monsieur Macron, ça a à voir avec l'intérêt de la France. Non, parce que textes, je vous l'ai dit, encore les textes sur la sécurité, nous les avons votés.
Vous voyez que vous n'êtes pas totalement opposé, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure. À part la CSG qu'on ressort comme une mantra, on ne voit pas bien ce qui vous différencie d'Emmanuel Macron.
Vous savez... Moi, j'ai toujours fait partie, même au Parlement européen, où c'est différent, parce que nous avons une méthode de travail qui s'appelle la culture du compromis. Donc, on travaille sur des amendements compromis, souvent avec l'opposition, et d'ailleurs, c'est mieux, parce que ça nous amène à travailler de manière sans doute plus constructive, pour le coup. Mais on n'a jamais été dans une opposition frontale avec le chef de l'État, comme beaucoup d'ailleurs, et je me rappelle de Manuel Valls sur certains textes de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était parlementaire, et Nicolas, ministre de l'Intérieur, a souvent été, lui aussi, dans un soutien au ministre de l'Intérieur sur des sujets. Ça fait partie de la méthode de travail parlementaire et du gouvernement.
Et on se retrouve... Pardon, Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose ? Vous avez 3 secondes, non ?
Non, j'ai écouté David et puis je prendrai mes 3 secondes après.
France Info.
Nadine Morano est avec nous sur France Info jusqu'à 10h. Question Gilles Panstein.
À un moment, vous, avec Nicolas Sarkozy, la droite populaire incarnait le peuple, et le peuple, les milieux populaires ont voté pour vous. On a l'impression que tout ça, c'est fini. Alors on a vu, voilà, aujourd'hui, François Ruffin est élu. Les Républicains et le peuple, on a l'impression que c'est une histoire terminée.
D'abord, pardon de reprendre les chiffres qui viennent d'être annoncés, là, parce qu'on dit 350 députés pour Emmanuel Macron. Non,
avec le MoDem.
Le préciser, avec le MoDem, puisqu'il y a eu 301 sièges pour République En Marche. Et
310, je crois. Une quarantaine pour
le MoDem. C'est bien de quand même le préciser, parce que le parti du président, c'est la République En Marche. Maintenant, s'agissant de notre ancrage populaire, il existe encore, mais il s'est évidemment très amoindri, c'est vrai. Il faut avoir le courage de le dire. Nous avons perdu une partie des classes populaires qui sont allées se réfugier au Front National. On a vu dans certaines circonscriptions qu'on a réussi à récupérer ceux qui étaient partis au Front National vers nos candidats. Mais vous avez raison. Et je dis que c'est pour cela que nous avons besoin d'une vraie analyse sur ce que nous avons porté comme projet. La manière dont nous parlons aux Français, de ceux qui les incarnent aussi à la tête de notre famille politique. La méthode, je vous en ai parlé, mais moi je ne veux plus d'un parti monolithique où on choisit ceux qui vont s'exprimer. Moi je pense que les Français ont besoin d'un message clair, qu'on leur reparle de leur pouvoir d'achat et d'espérance, parce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a beaucoup de désespérance dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs que les gens vont plus voter.
Et ça revient, ça nous ramène à la question de départ. Qui pour parler le mieux aux militants, au peuple, quand on est de droite ?
Je précise, vous ne voulez pas dire de nom, vous avez été la première à venir à ce micro dire « il faut François Baroin pour être Premier ministre ». Donc, vous avez un nom en tête, vous le dites. Donc, qui pour diriger votre parti ?
Mais parce que je pense qu'avant de dire des noms, il faut se parler.
De quoi vous avez peur ? Pourquoi vous ne voulez pas le dire ?
Alors, moi, peur de rien. Alors, franchement, n'utilisez pas ce terme.
Si on résume, il y a Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Il y a deux, aujourd'hui, trajectoires possibles.
Non, parce que là, vous annoncez des noms. On ne sait pas si Xavier Bertrand sera candidat. On ne sait pas si...
Non, c'est que Laurent Wauquiez le sera.
Laurent en a très envie et il a beaucoup de talent. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour Laurent et je partage... sa ligne politique, ça c'est un secret pour personne, je l'ai déjà dit même ici. Après, je crois qu'on ne peut pas se contenter d'annoncer un nom sans savoir ce qu'on va faire. Et moi j'ai besoin de savoir ce qu'on va faire et comment on va le faire. Donc il faut se parler. La prochaine étape, évidemment, c'est de pouvoir se parler sur la manière dont on va travailler au service des Français. Et après, nous verrons. Donc je reviendrai chez vous, vous inquiétez pas.
L'abstention est vécue comme un choc. Le gouvernement, Gérard Collomb le disait tout à l'heure, il était l'invité de France Info à 8h30. Le gouvernement va présenter un projet de loi où il introduira une part de proportionnelle pour lutter contre l'abstention. C'est une bonne idée.
Ça ne luttera en rien contre l'abstention. Vous savez, ce qui amène les Français à aller voter, c'est quand vous avez un projet porteur d'espoir, que vous sentez que ça peut changer votre vie au quotidien. Quand vous pensez que ça ne peut pas changer votre vie au quotidien, vous n'avez pas envie d'aller voter.
Mais vous
Donc ça veut dire que vous savez, quand je regarde ce qui se passe en Allemagne, même dans le fonctionnement de partis politiques, quand vous voyez la CDU qui arrive à avoir 1 million d'adhérents et que nous, on plafonne à 160, 260 000 adhérents, il y a un problème de méthode. Donc c'est ça aussi, c'est comment on fait pour que les Français aient envie de s'engager dans la vie politique, aient envie de militer, envie de défendre, aient envie d'aller voter.
Ah bah vous parlez comme La République En Marche.
C'est d'abord de... ça, je pense que tout le monde peut parler de la même manière. C'est d'abord de dire, voilà, parlons vraiment aux Français, et puis il faut que les médias aussi jouent leur job, hein, parce que franchement, des fois...
Ah tiens, vous voulez que je vous dise, vous êtes la première aujourd'hui à
dire.
Ah ouais, alors là,
mais encore que c'est pas tant les radios,
hein. Limite,
ça
nous manquait. C'est les télés.
La presse écrite.
S'il vous plaît.
Oui, mais tant pis, je dis ce que je pense.
On parlait à l'instant des abstentionnistes. On parle aussi d'une dose de proportionnelle. Ça intéresse particulièrement quelqu'un du côté d'Hénin Beaumont. En l'occurrence, c'est Marine Le Pen. Je voudrais qu'on rejoigne à Hénin Beaumont Thomas Bié rapidement. Thomas, la troisième a été la bonne pour Marine Le Pen, qui va donc faire son entrée à l'Assemblée nationale.
Ben oui, hein, enfin, 58% des voix pour Marine Le Pen contre Anne Roquet, donc dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. C'est une victoire personnelle, clairement, pour Marine Le Pen, d'abord, hein, qui n'avait jamais emporté en duel, défaite aux législatives, aux régionales, à la présidentielle, et qui brise donc une sorte de malédiction, et puis sa victoire, elle lui assure pour l'instant de conserver le leadership sur son parti, à court terme en tout cas, et puis elle va envoyer avec elle 7 autres députés frontistes au Palais Bourbon, et c'est un soulagement hier, même si le FN a une nouvelle fois critiqué, vous le rappeliez, le mode de scrutin.
Nadine Morano, on leur parle. Merci beaucoup Thomas Bié à Hénin Beaumont pour France Info. Est-ce qu'on leur parle à ces 8 députés une fois qu'on est dans l'hémicycle? Est-ce qu'éventuellement sur certains votes, certains sujets, on vote avec eux? Comment ça va se passer cette cohabitation?
Bah ça, écoutez, ou est-ce qu'on les laisse dans leur coin c'est pas de les laisser dans leur coin. Les Français qui les ont élus, nous sommes dans une république. Moi, je considère qu'ils ne sont pas en dehors de la république. Ils ont été élus au suffrage universel, donc ils sont des parlementaires. Moi, j'appartiens pas à ceux qui ne leur serrent pas la main. Vous voyez, donc je parle, je discute et nous confrontons nos divergences, puisque c'est souvent le cas. Mais voilà, je constate simplement qu'ils ne sont pas en situation de faire un groupe et que les Français ne les ont pas choisis, même au premier tour, où ils sont en net recul depuis ce débat désastreux où Marine Le Pen a montré ses limites dans sa pensée et dans son programme.
223 femmes dans la nouvelle assemblée, c'est l'assemblée la plus féminisée, oui, c'est une bonne chose.
Bah oui, ça au moins c'est un point sur lequel je me réjouis vraiment, parce que nous avons besoin de donner un équilibre...
Parité, enfin oui. Un équilibre homme-femme.
Bien sûr.
48% de femmes, 48% des députés La République En Marche sont des femmes. 24% des députés Les Républicains sont des femmes.
Oui, mais c'est normal, ils n'avaient pas de sortants.
C'est normal,
Vous avez des sortants, que ce sont des hommes, ont fait un bon boulot et on leur dit, bah non, désolé, hein, t'es un homme, donc tu rentres à la maison, je trouve ça pas très juste non plus. Hein, donc,
et pourquoi pas une femme à la tête des Républicains, tiens.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas candidate?
Pourquoi pas?
Vous n'êtes pas candidate?
Confier en quelques secondes, confier la présidence de l'Assemblée nationale à une femme, ça serait un bon symbole?
Bah, bien sûr, bah, franchement. Mais vous savez, les femmes devraient exercer les postes les plus hauts, la présidence de la République, Matignon, enfin...
Tout... Les LR, mais, LR vous
on n'y a pas pensé, la présidence des Républicains, vous y pensez?
Écoutez, nous allons discuter mercredi.
Ah, vous y pensez?
J'ai failli vous le demander.
On a attrapé le truc à la fin.
Vous extrapolez des choses. Non, mais franchement. Non, ce que je veux dire, c'est que nous allons discuter. Je veux jouer un rôle.
Vous êtes candidate.
Je veux jouer un rôle dans ma famille politique. j'entends défendre des idées et des convictions. Ça a été le sens de mon engagement tout le temps. Donc, et je continuerai à le faire.
Et ça, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Nadine Morano, l'édition spéciale de France à fond. Elle continue dans un instant avec Marie Bernardo. Nous, on se retrouve demain.